Bonjour, nous sommes le lundi 10 février, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
La relève, c'est 30 minutes avec un invité venu de tous les horizons et dont on parlera encore plus demain qu'aujourd'hui. C'est notre pari et comme on vous l'a déjà dit, on n'aime pas perdre, alors tenez-vous-le pour dit. Aujourd'hui, on parle tout simplement de chocolat et de montagne. Bienvenue en Suisse. Bonjour Joseph Incardona.
Bonjour.
Alors, comme les plus subtils de nos auditeurs ou les plus informés le savent peut-être, vous êtes suisse et écrivain. Les très précieuses éditions Finitude, j'avais envie de leur dire merci pour Raymond Guérin, Jean Forton, Victor Poucher, mais aussi Pierre Sandors, viennent de publier, donc les éditions Finitude, pour ceux qui auraient perdu le fil de la conversation, viennent de publier La Soustraction des Possibles, votre dernier roman en date. Pour commencer, j'aimerais vous demander quel est le cliché qui vous énerve le plus sur la Suisse ?
Ben en fait, il y en a tellement. Les chocolats, les montres, la lenteur, l'accent.
Je suis content, j'en avais trouvé deux déjà.
Oui. Puis en plus, bon, moi je suis un Rital, hein. je suis un Suisse issu d'immigration, donc c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Voilà, mais c'est vrai que c'est tout ça. Et c'est vrai que finalement, la Suisse est un pays assez méconnu.
Je vous pose cette question parce que votre roman est très ancré dans la Suisse, ses paysages, mais aussi ses artistes. Il y a l'écrivain Ramuse, le peintre Fernand Hodler, ses mœurs, les mœurs de la Suisse, la religion, la stratification sociale. Sans nous parler de l'histoire du roman, vous aviez envie d'écrire sur la Suisse d'abord, écrire sur le pays genois avant tout ?
Alors, la Suisse a un problème de l'adéquation de son territoire et des histoires qu'on veut raconter. Et c'est vrai que soit on va dans la nature, on va dans les montagnes, on va dans la campagne, et puis effectivement c'est tout le territoire qu'avait choisi d'ailleurs Ramu à l'époque, pour trouver quelque chose d'assez authentique, où on retrouve une forme d'âme, ou dans des petites villes aussi, des petits centres. Mais c'est vrai que des villes comme Genève ou Zurich ou Bâle sont des villes, et là en l'occurrence il s'agit de Genève, qui ont énormément perdu de leur caractère. C'est des villes qui sont difficiles même au niveau du cinéma. On tourne très peu de films en Suisse. C'est pas très cinégénique. Il y a toujours le problème de l'adéquation entre l'histoire qu'on veut raconter et le territoire. Donc si vous voulez raconter une histoire sociale à la Ken Loach, ça va être difficile de le faire à Genève avec les voitures de luxe, les hôtels, etc. Donc là, je trouve une adéquation tout d'un coup entre un territoire et une histoire à raconter. Et il apparaît que cette géographie fonctionne. Et ça marche. Ça marche dans l'histoire qu'on veut raconter. L'humus, le terreau est là et se justifie pleinement.
Vous aviez ce projet d'être un peu l'anthropologue de Genève, enfin de la Suisse et plus particulièrement de Genève en écrivant ce roman ?
J'avais envie de faire une sorte de fresque, certains l'appellent péplum, fresque, petite comédie humaine, de marquer un temps, une époque. Et puis il se trouve que c'est un des centres, ça fait quand même partie, c'est une des villes qui fait partie des 20 plus chères du monde ou 20 plus riches du monde, j'en sais rien. Et en réalité, il y a aussi un lumpen prolétariat, il y a aussi des classes sociales, il y a aussi des catégories, il y a aussi...
Oui, voilà. Parce que votre Genève et votre Suisse, c'est les montagnes, c'est les alpages, il n'y a pas les vaches, mais elles y sont presque, mais c'est aussi les banlieues résidentielles, puis les banlieues très moches dont vous parlez, en gros, vous dites qu'il n'y a même pas de quoi placer une caméra parce qu'il n'y a rien à voir.
Oui, ben voilà, c'est aussi tout ça, c'est le côté rive gauche, rive dorée du lac Léman, où il y a la Jet Set, qui est pas loin de Megève, il y a en même temps les quartiers populaires, les premières cités qu'on appelait à l'époque les cités satellites, les cités urbaines ont été créées en dehors des pays scandinaves, en Suisse. À Genève, il y a eu la première cité satellite dans un endroit qui s'appelle Mérin, où il y a eu les premiers grands immeubles, grands ensembles, où il y avait des utopies sociales. Donc il y a pas mal de choses qui s'inscrivent. L'histoire se passe en 89-90, et je ne dis pas 90, que je devrais.
Merci pour cet effort.
Et en fait, c'était la ville au 100 squats, Genève. C'était la ville d'Europe où il y avait le plus de squats, avec un procureur socialiste à l'époque, les procureurs sont élus du peuple, qui laissait libre cours à ces... Donc il y avait aussi toute une vie culturelle, sociale très, très différente, alors qu'aujourd'hui, ça s'est complètement gentrifié.
Alors avant de commencer à parler un peu plus avant de La Soustraction des Possibles, j'aurais juste voulu revenir sur votre précédent roman, Chaleur, parce que c'est par ce roman-là que je vous ai découvert, et ensuite parce que c'est un livre très singulier. Comment était née Chaleur, cette histoire qui se passe dans un sauna ?
Chaleur, j'habitais en encore... Non, j'habitais Bordeaux à cette époque-là, et je lis un entrefilet, il y avait toujours dans le Libé, sur la colonne de droite, je ne sais pas si c'est encore, je le lis un peu moins maintenant, parce qu'à Genève, on ne le trouve pas forcément toujours.
Il n'y a pas beaucoup de lecteurs de Libé.
Non, c'est qu'il faut aller à la gare. Bon. Et y avait ces faits divers. Et je lis ces 10 lignes de ces deux types qui s'enferment... Enfin, il y a un championnat du monde de sauna, déjà, on rigole.
Ça, oui. Voilà. Et ensuite, donc, le but est de rester le plus longtemps possible enfermé dans le sauna.
Puis après, je vois qu'il y a deux types qui restent jusqu'au bout, aucun veut sortir, puis un meurt d'une crise cardiaque, l'autre est handicapé à vie, poumons brûlés, brûlure au troisième degré, etc. Et puis je dis, première réflexion, quelle connerie, je rigole, et puis voilà. Puis ça s'installe, puis je vais me renseigner un peu plus, puis je vois qu'il y a un vrai championnat du monde avec 200 concurrents, catégorie hommes et femmes, et puis il y a des éliminatoires. Et puis finalement, la question fondamentale, c'est celle-ci que je me suis posée, qu'est-ce qui fait qu'un individu, à un moment donné, décide de ne pas reculer ? Il dit, de là, je ne bouge plus. Alors, dans des cas les plus glorieux, ça donne des martyrs, des héros, des saints. Et puis, ça, c'est les héros, les martyrs et les saints de rien du tout. Ils sont...
C'est un peu dérisoire comme ça. Hein.
Voilà, c'est... Mais il y a quelque chose dans ces...
Il y a à la fois quelque chose de chevaleresque et de dérisoire dans cette histoire.
Oui, hein. c'est un truc qui d'une certaine manière, est petit et presque minable. Mais en même temps, ils ont de la grandeur, ces bonhommes. Et puis, en fait, c'est bien que vous me posiez la question, parce que pour moi, la jeunesse d'un roman, c'est ça. Et c'est resté pendant 3, 4, 5 ans dans ma tête, cette histoire. Et puis, il fallait que je trouve l'adéquation entre le fond et la forme. Et à un moment donné, la chose se met en place et ça démarre et ça y est, et ça part.
Et on verra mieux pour ceux qui liront les deux romans, le lien avec la soustraction des possibles. Parce que ce côté chevaleresque et un peu minable, on la retrouve aussi dans la soustraction des possibles. Moi, j'avais surtout envie de vous demander si vous aviez écrit un roman, comme vous disiez, une fresque comme la soustraction des possibles, parce que vous aviez souffert d'être enfermé dans ce sauna avec les deux oiseaux et que vous aviez besoin de plus d'air, plus de personnages, d'intrigues en même temps à mener.
Alors, ça dépend. C'est vrai que je m'installe pas dans un type de roman. Alors, ça me dessert parfois, parce que peut-être qu'un lectorat ou des gens qui lisent un certain type de livre pensent que le suivant sera du même acabit, alors que j'essaie toujours de trouver des choses un peu différente dans la façon de raconter l'histoire, dans le style, dans la forme. Et le précédent, c'est un roman aussi choral, ça s'appelle Derrière les panneaux, il y a des hommes, un roman qui se passe entièrement sur une autoroute pendant 3 jours. Et là, la chaleur, c'était quelque chose de nouveau, une sorte de duel au fond, de deux personnages plus intimes. Et là, de nouveau, on a un roman encore plus choral avec celui-ci. Et peut-être le prochain, ça sera un mélange des deux. Voilà, après, c'est tout d'un coup une histoire, quelque chose, il y a une idée, une image, une phrase, c'est quelque chose qui ça peut être différentes choses, une photo, et puis quelque chose s'installe.
Alors là, c'est quoi dans le cas de la soustraction des possibles ? C'est qu'est-ce qui à un moment cristallise et fait que vous dites ça y est, c'est ça que je vais raconter ?
Alors, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un fait divers d'une fondée de pouvoir de l'UBS qui, il y a quelques années, en réalité gérait des portefeuilles, donc elle avait un très bon poste, très bon salaire. Mais ça ne lui suffisait pas.
Elle ressemble donc un peu à l'héroïne Svetlana, dont on va reparler après.
Et ce roman aurait pu s'intituler « L'avidité ». Et elle prélevait sur chaque transaction de ses portefeuilles 2-3 centimes, ou sur des cartes de crédit de ses clients. Donc quand vous dépensez 200-300 000 balles par mois, 3 centimes, vous n'avez pas... Sauf, elle s'est fait avoir parce qu'elle a commencé à s'acheter de nouvelles bagnoles, nouvelle montre, nouvelle fourrure, nouvelle... Puis voilà, le service interne a commencé à la suivre. Donc il y a eu ça, il y a des images de l'enfance. Mes parents ont été pendant longtemps, donc ils ont travaillé dans des hôtels, ils ont fait les saisons. Moi, j'étais un peu ballotté à gauche, à droite. Et puis ensuite, ils ont travaillé pendant plusieurs années dans différentes maisons en tant que domestique. Mon père était chauffeur, ma mère gouvernante, etc. Donc j'étais vraiment dans ce lumpen prolétariat. Et j'ai vécu... On vivait dans des annexes et tout. Je voyais tout ça. Je voyais ces grosses bagnoles. Je voyais ces gens. Je voyais ces soirées. Alors j'étais gosse. Hein, puis après j'étais ado. Et puis après. Et puis j'avais pas le droit de jouer avec les enfants du même âge que moi parce qu'on n'était pas de même extraction sociale. Tout ça existe. Alors je sais pas si les classes sociales c'est quelque chose de désuet, mais en tout cas les catégories elles y sont encore. Et il y a ces souvenirs là. Il y a des choses, des lieux que je décris sur ces Andy Warhol avec Mao Tse-tung. Voilà, et puis il y avait cette moquette, et puis tout d'un coup, vous avez la moquette, et puis vous avez une piscine intérieure, et puis vous avez des fauteuils en forme de main, en cuir, qui vous enveloppent, enfin des choses complètement dingues. Et puis ces personnages, voilà, gravitent là autour, et sont nés, donc c'est un patchwork d'images.
Il se fait divers, voilà. Qu'on ne sait pas.
Puis après, je suis allé faire des recherches de 3 trucs, puis on s'aperçoit que, ben voilà, quoi, il y a énormément de... Genève est très, très... surtout à l'époque où l'évasion fiscale était. Je ne parle pas de blanchiment encore, parce qu'après, ça va, dans mon histoire, on va passer au blanchiment. Mais ce que je veux dire, tous les expatriés français ou tous les, qui viennent à Genève, enfin, on en a plein.
On n'était pas si loin encore de l'impôt sur la fortune de 81.
Voilà, puis Mitterrand arrive au pouvoir, la grande panique. Parce que voilà, ils n'auraient pas dû paniquer autant, d'ailleurs. Parce que...
Vous citez Balzac au début du livre avec cette phrase « Derrière chaque fortune, il y a un crime ». On pense aussi à Balzac dans votre roman, parce que c'est un roman sur l'argent, sur sa circulation. Mmh. Ça vous intéressait de raconter ça, l'argent qui circule, hein, comment les mécanismes... Alors même si vous dites que les mécanismes, en fond, on s'en fout dans le roman.
Oui, parce que alors, je vais jusqu'à un certain point du mécanisme, parce que, c'est quand on va dans le détail, c'est très peu intéressant et très peu romanesque. Et deux, au fond, on est dans une société où il y a tellement de choses qui se passent, on ne comprend rien. On nous donne des indices de bourse, des trucs, mais au fond, même 90% des gens, on ne comprend rien. Voilà, mais c'est ce que j'appelle le MacGuffin de l'économie, c'est qu'on ne sait plus exactement...
Vous pouvez expliquer ça, c'est vrai, moi j'ai lu le livre, donc je vois ce que vous voulez dire. MacGuffin, c'est cette expression d'Hitchcock.
Voilà, alors je m'éloigne un peu pour mieux y revenir. Oui, alors Hitchcock disait ça. En fait, il y a, et c'est même dans Les Enchaînés, dans ses propres films, à un moment donné, et ça vous retrouvez dans les films d'espionnage très souvent, ou de... Le héros ou les héros du bouquin doivent faire quelque chose, ou du film doivent faire quelque chose, mais qui est de l'ordre très scientifique. On comprend en général pas très bien qu'est-ce qu'ils doivent faire. On comprend, c'est assez confus, même dans les romans de Dashiell Hammett, vous comprenez rien. Mais ce qui est important, ce que nous on doit savoir comme spectateurs, c'est que Cary Grant, faut pas qu'il se fasse choper par les Allemands, parce que sinon il est dans la merde. Voilà, c'est ça. Et donc on a de l'empathie pour lui, et on le soutient. On dit attention, il faut pas qu'il se fasse trahir par Ingrid Bergman, qui est un agent double. On comprend rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils s'aiment, c'est qu'ils sont l'un contre l'autre, mais en même temps, il y a un enjeu... on va dire sentimental, affectif. Et après...
vous dites que c'est l'argent, notre MacGuffin.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus s'il est l'origine, la cause, la conséquence, le but, le moyen. L'argent est là et on ne sait plus. Et on sait même ces flux financiers, on ne les comprend pas, nous, comme un des mortels. Mais même, je pense que même les grands courtiers, les grands brokers, les vrais initiés qui savent exactement. Je pense qu'il y a plein de gens qui exécutent dans leur petit milieu, dans leur petit coin, ils exécutent leur petite fonction. Mais la mécanique globale, personne ne la comprend réellement.
Vous êtes allé en voir pour savoir comment ça marchait ou vous, pas trop ? Vous n'aviez pas trop envie de vous renseigner ?
Oui, alors je me suis renseigné, mais j'ai fait quand même des recherches. En fait, j'en sais plus de ce que je dis. J'étais même allé il y a quelques années à Wall Street, dans la bourse, voir comment ça se passe. Puis c'est un vrai théâtre. C'est un vrai théâtre. C'est complètement abstrait.
En plus, avec les gestes.
Confusion, voilà. Il y a un bruit, on ne comprend rien. Comment ça fonctionne ? On ne comprend pas.
Est-ce que c'est plus la circulation de l'argent qui vous intéresse ou celle de la libido, du sexe et je dirais même plus encore du désir sexuel ? J'ai l'impression que dans votre livre, l'argent finalement il part avant aux aventures sexuelles des uns et des autres.
Mais parce que il y a ces deux moteurs qui sont la sexualité et l'argent. Et c'est vrai que ce sont deux grands tabous. Demander à quelqu'un combien il gagne et puis comment il fait l'amour, en général, on ne va pas vous répondre. En réalité, j'ai l'impression que ce que j'essaie d'expliquer là aussi, c'est les jeux de pouvoir. C'est à travers l'argent posséder du pouvoir. Puis ce pouvoir, il faut le manifester par des biens matériels ou par des choses, par des objets ou par aussi parfois la possession d'êtres humains, hein, ces liens avec la prostitution, etc. Ces hommes qui achètent, ces femmes qui se vendent.
Il n'y a pas que la prostitution, c'est vrai qu'on n'a pas encore commencé à raconter l'histoire, mais c'est pas grave. Il y a quand même ce personnage de Christophe Noir qui meurt d'amour pour Svetlana, qui veut la posséder, mais c'est pas de la prostitution là. De collier. Là, c'est l'amour frustré.
Bah voilà, là tout d'un coup, cet homme qui a 35 ans, a tout, est multimillionnaire, enfin il est milliardaire carrément. Il a tout, puis à un moment donné, je lui fais dire, je crois, mais à quoi ça sert si j'ai tout, si je peux pas avoir l'amour de cette femme dont je suis follement amoureux et il y a un chassé croisé comme ça. Lui, il aime cette femme, qui en aime un autre, etc.
Ça fait un peu penser à la ronde de Schnitzler. Il y a On passe comme ça de partenaire à partenaire.
Oui, bah oui, mais parce qu'après c'est la théorie du petit monde, c'est ces microcosmes où effectivement le quand vous parlez de libido, au fond, bon, c'est Freud qui donnait qui initie ce terme et tout, mais au fond, c'est l'envie de réussir, c'est l'envie, c'est l'ambition. Alors, elle se traduit d'une. Après, il y a la saine ambition, il y a la vanité, l'ambition vaniteuse, les choses se superposent. Et à un moment donné, il y a cette espèce de jeu de pouvoir, où la sexualité se mêle à l'argent et à la drogue et aux belles choses. Et puis, ça devient quelque chose d'assez. Oui. Il y a l'amour matérialiste, il y a l'amour, et puis il y a l'amour le vrai là-dedans aussi qui élève. Et un même acte fait avec amour ou sans amour, il y a une vraie différence, et je l'exprime et je l'écris aussi.
J'ai un tout petit extrait. Vous écrivez, le grand marché du sexe est mondial, il est partout, il y a de la testostérone et de l'avidité à soulager, de la frustration à combler. Le Moloch prend, consomme, consume et tue. La putain est le grand déversoir, ne riez pas, le jeu de mots est malheureux, l'éjaculation souvent triste.
Oui, bah après, parce que je parle aussi...
Pardon, c'est très mal lu.
Non, mais... Il y a ces filles, tout ce que je raconte sur ces filles de l'Est, etc., ça c'est très documenté et c'est dramatique. Et c'est au fond... Peut-être, moi, il y a un écrivain que j'adore, qui est décédé malheureusement, c'est Roberto Bolaño, cet écrivain qui, si je ne fais erreur, est chilien, et qui a écrit notamment un petit chef-d'œuvre, un grand chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre tout court, qui est 2666, et qui s'intéresse à ces femmes, ces milliers de femmes disparues à la frontière mexicaine, entre le Mexique et les États-Unis. Et là, on se rend compte que tout d'un coup, une vie humaine, je l'écris, vaut moins qu'un jeans Lewis. C'est-à-dire qu'on arrive à cette matérialisation où l'être humain est complètement objectivé. Alors, je dis ça, ça a l'air d'être très politique, ça l'est aussi d'une certaine manière, mais c'est qu'à un moment donné, une personne, un individu a moins d'importance qu'un objet, et c'est quelque chose qui est tout de même assez grave.
Moi, j'aime pas trop qu'on raconte les histoires des romans quand on fait une interview, alors ça ne me dérange pas du tout. Mais on va quand même y revenir un petit peu, quand même, pour que nos auditeurs ne soient pas perdus. Au commencement de votre roman, il y a Odile, il y a Aldo, le professeur de tennis, la bourgeoise qui s'ennuie, qui tombe dans les bras l'un de l'autre. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'ils tombent dans les bras l'un de l'autre? C'est pas très clair. Ils tombent plutôt ailleurs. Il y a donc Aldo qui va tomber amoureux de Svetlana. Il y a Christophe Noir qui va tomber de Svetlana. On part un peu de cliché de la bourgeoise qui tombe amoureuse de son prof de tennis. On sent que vous jouez avec ces clichés. C'était dans la manière d'écrire, c'est quelque chose que vous avez cherché à jouer avec les clichés.
Alors les clichés, les archétypes. Après, c'est. Mais j'ai l'impression que au final, tout ce qui est, depuis la tragédie grecque, depuis même au fond peut-être le premier roman qui est occidental qui pourrait être finalement la Bible, on tourne autour de d'histoires qui se ressemblent, de passion, de trahison, d'amour impossible, d'amitié, et finalement les thématiques se recoupent assez souvent. Alors voilà, tout d'un coup, je joue sur ce cliché ou sur cet archétype de finalement, je reprends Madame Bovary. Et puis, simplement, Madame Bovary, elle est en 2020, elle joue au tennis, elle a une Mercedes. Enfin, là, on est en 89, mais elle a sa Mercedes, elle a une émancipation, elle est dans une ville internationale, elle peut se permettre à son tour d'agir, de posséder peut-être. Puis, il y a la peur de la vieillesse qui arrive, et puis, il y a cette jeunesse qu'on veut retenir, et puis, tout d'un coup, voilà, elle perd la tête pour ce.
Il y a le bel Aldo.
Voilà, pour ce beau gosse qui. Et puis à travers elle, commencer à porter des valises entre Lyon et Genève, etc. Et puis ça commence.
Ouais, et puis qui lui cherche de l'argent, parce que lui, il a une revanche sociale à prendre.
Voilà, alors lui, c'est basse extraction, parents immigrés italiens, qui ont travaillé en usinage de montres, etc., etc. Et puis il a compris qu'à un moment donné, il pouvait tirer son épingle du jeu. Et puis il a une revanche à prendre sur la vie, ou c'est ce qu'il croit, mais il est prisonnier lui-même d'un paradigme, il est prisonnier lui-même d'un rêve libéral, voire ultra-libéral. Et puis d'ailleurs, il va changer le jour où il va rencontrer Svetlana, et pour la première fois de sa vie, il va être quelqu'un d'autre, parce qu'il tombe réellement amoureux. Et ces deux-là, c'est un peu Bonnie and Clyde à un moment donné, sauf que ils auraient dû s'arrêter à un moment donné, parce qu'ils ont voulu trop eux aussi, alors qu'ils avaient l'essentiel. C'est dommage.
Ramus, donc l'écrivain suisse dont on parlait tout à l'heure, écrit que la bourgeoisie à laquelle appartiennent plus ou moins vos personnages ne peut accéder qu'au drame, la tragédie leur est interdite. C'est ce que vous pensez aussi. Est-ce que vous avez tendance plutôt à écrire, parce que en fait dans le livre vous intervenez souvent, le narrateur intervient.
Ça c'est une nouveauté, j'avais jamais fait, où j'interviens même carrément en tant que Joseph, oui. Incardona dans mon livre avec mes propres personnages, puis je donne parfois l'impression d'être, je leur parle parfois, je donne l'impression d'être le grand manipulateur, puis je me rends compte que mes personnages m'échappent complètement. Certains, enfin je vais pas dire la fin, mais certains auraient pas dû finir comme ils ont fini. Ah. Je pensais qu'ils s'en sortiraient ou qu'ils auraient fait une fin différente, et puis d'autres qui étaient promis à, bah finalement ils s'en sortent. C'est ça la vie aussi.
Parce que cette histoire, Odile aime Aldo, qui aime A, M, B, M, C, c'est la base de la tragédie, c'est Phèdre.
Oui, mais oui.
C'est triangle amoureux.
Mon écrit, c'est pour ça quand on dit. Moi, j'écris pas du polar, j'écris du noir, mais j'écris surtout du roman, et puis ce roman du tragique, hein, sans doute. Et puis oui, mais Ramu, enfin, je la fais simple parce que c'est beaucoup mieux dit et beaucoup mieux écrit dans un livre de réflexion qui s'appelle Taille de l'homme.
En tout cas, vous donnez envie de le lire, Ramu.
Moi, je l'ai redécouvert. Enfin, j'avais lu au lycée, puis je l'ai redécouvert il y a 3-4 ans, puis du coup, j'ai lu quasiment tout de lui. Et il dit pourquoi ? Parce que le bourgeois entendu comme quelqu'un qui est dans une société déjà urbaine, où en fait on se compare, on se confronte, on est des rivaux, et puis on est en proie au commerce, et puis on regarde le voisin. L'homme est en proie à l'homme. Alors que quand lui parle des paysans, quand il parle des pêcheurs, ils sont en lien direct avec une entité, alors appelons-la Dieu, qui est celle de la nature, qui est celle de la... Le gars, il dit, il a la nouvelle Cherokee, là, alors que le paysan dit, ouais, il faut que je rentre mes vaches, il pleut. Donc ils sont en lien direct avec les choses essentielles. Donc le tragique, Ramu disait, bon, il écrit ça dans les années 30, hein, il disait le tragique de mes personnages... paysans, pêcheurs, etc. Et puis le drame de la bourgeoisie. Alors, la bourgeoisie vit mieux, soi-disant, etc. Par contre, le paysan, lui, peut avoir accès au tragique, au grand sens de la vie. Et c'est un personnage qui va donner accès au tragique, Mimi Léon, la Corse, qui est un de mes personnages préférés.
Mais je préférais ne pas croiser. Vous écrivez quand même, je rebondis sur ce que
mais
vous
dites. Mais elle a un bon fond quand même.
sur ce que vous écrivez, j'ai un doute, mais bon. Mais on sent que vous l'aimez beaucoup. Un des thèmes du roman est aussi de là-dessus. Attendez, pardon. J'ai perdu la phrase. C'est le premier pas, le leurre du beau associé au bon, car un des thèmes du roman est aussi celui de la superficialité au croisement de la tragédie. C'est exactement ce que vous venez de dire là.
Oui, Aldo et Svetlana, c'est
sont très superficiels.
Oui, et tout d'un coup, parce qu'au fond, je me souviens de cette phrase de Céline, je crois que c'est dans Voyage au bout de la nuit, disait « Le plus grand malheur nous rapproche de nous-mêmes, nous dit qui on est. » Mais je pense qu'aussi le plus grand bonheur peut nous rapprocher de nous-mêmes et nous dire qui on est. Et en fait, ces deux-là, à un moment donné, alors bon, Zetana a plus d'instructions que Aldo, etc., mais pour la première fois, ils vont au fond d'eux-mêmes parce qu'ils se dévoilent complètement et pour la première fois, ils trouvent quelqu'un à qui dire qui ils sont. Et d'ailleurs, il y a une scène où ils sont complètement... elle lui prend les mains, lui embrasse les doigts de ses mains, et puis il dit, mais qu'est-ce que je fais ? Genre, c'est l'expression cucul après Annie, mais j'ai l'air idiote de faire ça. Puis tout d'un coup, non, c'est pas idiot du tout. Tout d'un coup, ce geste n'est pas idiot du tout.
Il y a la scène très belle aussi où elle est malade et où il s'occupe d'elle. Alors là, on a entendu des pages, des heures et des heures de discussion sur le care. Là, on a une illustration parfaite et très belle de ce que c'est.
Oui.
Prendre soin de l'autre.
Oui,
d'un seul
oui.
coup.
Bah oui, bah oui.
Ce que ça veut dire, s'intéresser à l'autre oui. et en prendre soin.
Et lui, parce qu'elle a.
Très prosaïques, très de la vie courante.
Oui, et puis en plus, cette femme a une petite fille de 8 ans. Et tout d'un coup, il se sent s'occuper de cette petite alors ouais, qu'il n'avait rien à faire des gosses jusqu'à ce jour-là. Donc il y a cette. J'espère avoir posé aussi des moments de poésie, des moments de tendresse dans un monde qui est assez cynique, avec une fin assez dure, je le reconnais.
Oh, pas que la fin. Ma question est maladroite, mais je ne sais pas comment trop la formuler. Est-ce qu'en redonnant de la tragédie à ceux qu'on dirait d'en bas, en France, en tout cas ceux qu'un Premier ministre appelait France d'en bas, en France, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a aussi derrière ça une démarche, je ne sais pas comment dire ça moi, de social, de justice sociale, c'est redonner à tout le monde le droit au tragique. Est-ce que ça devrait être, j'ai presque envie de dire, un combat politique que tout le monde ait le droit au tragique, que ce ne soit pas réservé à certaines classes ?
En fait, le tragique, c'est plutôt les
ah oui,
les
c'est vrai, Chiramis, c'est les paysans.
C'est plutôt les classes qui ont.
J'avais en tête le modèle où la tragédie est réservée aux dieux et aux rois. Et,
d'accord, alors oui. Que
le bourgeois,
en fait,
la comédie à la Phèdre.
Non. Ça. Par contre, ce que peut-être j'ai essayé de montrer, c'est comment, au fond. Il y a un personnage de Daniel Campos qui est un ancien
qui vient d'Amérique du Sud.
Voilà, qui est un ancien révolutionnaire qui a combattu Pinochet, etc. Parce que j'ai connu des personnages comme ça.
Parce qu'il faut le dire aussi, votre livre, il y a beaucoup de personnages et ils sont tous très beux parce qu'ils sont tous très ambigus.
Oui. Bah, cet homme-là qui était un ultra de la gauche, etc., il était torturé, on lui a cassé les dents. Et tout ça, c'est le témoignage c'est des choses que j'intègre de personnes que j'ai pu rencontrer, etc. Et qui, à un moment donné, ont 45 ans, ils se sont mariés, ils ont un gosse de 5, 6 ans, 10 ans. Ils sont fatigués, ils n'ont plus envie d'avoir peur, ils n'ont plus envie d'avoir... Et puis à un moment donné, ils disent, j'ai trouvé du confort. Et puis bon, là, je l'ai poussé plus loin, le curseur du bonhomme qui veut carrément être quelqu'un d'autre. Et au lieu de voter ou d'agir pour ses intérêts, il va voter pour celui qu'il a envie d'être plus tard. Donc c'est un gars qui devrait normalement voter à gauche, mais il va voter plutôt à droite, alors qu'il vit dans un... Tout l'indiquerait pour... Mais il n'a plus du tout sa conscience de classe parce qu'il a déjà envie d'être ailleurs. Je ne dis pas que la conscience de classe soit encore quelque chose qui forcément soit d'actu. J'en sais rien. Je ne donne pas de réponse par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à mon avis, continue d'exister. Et en tout cas, ces personnages-là qui se fourvoient, et finalement, les seuls qui sont complètement à leur place et authentiques, c'est ces Corses, c'est ces bonhommes qui ils sont complètement à leur place et ils jouent pas le jeu de personne. Ils disent, moi, je suis un truand, je suis là, je suis ancré dans... Je me fous de la gueule de personne. Je suis ce que je suis, à prendre ou à laisser.
On l'avait pas préparé, mais c'est drôle que vous citiez ça parce que j'avais pris un passage et je pensais que je n'aurais pas le temps de le lire, mais tant pis. Vous dites, faire semblant, Aldo fait semblant avec Odile, qui fait semblant avec René, Horst fait semblant avec Sveltana, qui fait semblant avec Christophe, les gens font semblant, observez autour de vous, combien vaut-il au bout d'eux-mêmes, très peu, après coup c'est eux qu'on admire, après coup, l'humanité est lâche, l'humanité a peur, l'humanité est triste, alors aller vers ce qui nous constitue, vers ce que nous voulons, le problème c'est que souvent on veut tout, et tout vouloir c'est ne rien vouloir du tout, et voilà qu'apparaissent les contradictions, les frustrations, qu'apparaissent les faux semblants, et tout se complique. Et juste un peu plus loin, vous parlez de cette fameuse Mimi, la bergère corse. Mimi la tête regarde, Mimi lève la tête, regarde, puis ferme les yeux en soupirant, le ciel se découvre, l'air est doux, on aurait envie de déplier une couverture sur l'herbe et de s'endormir en respirant la mer, de mourir aussi peut-être, une belle journée pour mourir sans regret, au milieu des éléments qui sont ce qu'ils sont et rien d'autre.
Oui, et puis finalement, à un moment donné, il lui dit, son frère, parce que c'est eux qui gèrent tout le clan familial. Et alors voilà, après je mets avec le cercle Wagram, toutes ces choses-là, qui sont des choses prises dans de la réalité, de la presse. Je mets tout ça en fiction. Mais au fond, ils affirment, on n'a pas à entortiller personne, quoi. On n'a pas de démagogie à faire. On est ce qu'on est et on l'assume. Alors qu'on serait censé être chez les gentils, chez les bons, chez ceux qui finalement sont pas très blancs, très très gris, parfois très noirs aussi. Et alors eux, par contre, ont le souci de la respectabilité.
Depuis le début, je vois le temps qui tourne, on a beaucoup parlé de Balzac. Vous citez aussi Voltaire avec une citation que j'adore. Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable.
Ouais,
je ne la connaissais pas, mais elle est magnifique.
Celle-ci, elle est épinglée, aimantée sur mon frigo.
Quels sont vos auteurs de prédilection?
Il y a finalement tous ces classiques français russes du 19e que j'adore.
Il y a Ramus donc que vous avez
redécouvert. Oui, bien sûr. Après il y a les Russes, il y a Balzac, Zola, Céline, enfin bref quoi, il y a tout. Et puis après dans les auteurs contemporains, il y a Roberto Bolaño, ce chilien. Il y a Harry Cruz, qui est un auteur américain extraordinaire, qui est un auteur, non, c'est un auteur,
on va dire, polar, dans le, en tout cas,
ouais,
en
noir,
noir,
en
ouais.
série noire, mais dans la collection La Noire que Patrick Renan avait créée à l'époque. Et c'est lui, d'ailleurs, je crois, qui l'avait fait découvrir, et qui continue à le traduire, d'ailleurs, actuellement chez Sonatine. Voilà, ça, c'est un écrivain immense que j'aime beaucoup. Après, il y a Raymond Carver, j'aimais beaucoup Philippe Djian des années 80.
C'était, Céline
Céline, bien sûr, aussi. Il y a toute une...
Ça vous a amusé
Kent Anderson, enfin voilà.
Ça vous a amusé de parler à la première personne dans ce roman? Parce que c'est très surprenant.
C'est un risque que j'ai pris et puis mais il est fait sans prétention. Il est fait parce qu'à un moment donné aussi, je me situe dans. C'est-à-dire que je me raconte moi à un moment donné qui croise mes personnages à la même époque, parce qu'en fait, il y a des choses qui se passaient à mon insu, alors que j'étais à quelques centaines de mètres, ou peut-être
déjà
j'ai même croisé.
Habité.
Voilà. Donc,
peut-être j'en avais croisé des comme ça.
Donc, je me suis. C'est quelque chose qui est de l'ordre du jeu aussi, de quelque chose d'un petit peu oulipien, comme ça, de se mettre à l'intérieur. Je crois que ça passe, et puis que c'est pas du tout une volonté de poser un moi-jeu littéraire, mais c'est une façon de raconter.
Et puis ça crée un autre niveau de lecture qui n'est pas inintéressant.
Oui, parce que la question que je pose aussi, parce que la question du titre, c'est l'arte povera, Michelangelo Pistoletto de l'arte povera italienne, qui disait que chaque œuvre d'art n'est pas une addition au monde, c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose qui est soustrait au monde qu'on ne pourra plus faire, ou en tout cas pas faire de cette façon-là. Et en réalité, chaque geste, chaque acte que posent mes personnages les amène vers une forme de finitude, vers la fin. Et voilà, et c'est aussi une façon, comment écrire un roman maintenant, aujourd'hui, en 2020, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer d'apporter des petits éclats de fond et de forme qui se fondent complètement et qui deviennent quelque chose d'un petit peu particulier, mais d'écrire un roman complètement nouveau, complètement neuf, c'est difficile d'apporter quelque chose. Mais on peut espérer de temps en temps trouver quelques pages, des bouts de chapitres où on arrive avec un petit bout de diamant là qui scintille. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer au fond.
Et ben merci beaucoup Joseph Incardona. Je redis que vous. Votre livre s'appelle La soustraction des possibles. J'avais même pas pensé à vous poser la raison du titre. Il a été publié aux éditions Finitude. C'était La Relève. Vous venez déjà d'écouter le 12e épisode de la saison 4. L'émission était réalisée par Hugolin L'Homme Invisible, présentée et préparée par Christophe. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur le site de Radio Campus Paris, rubrique La Relève, ou sur Instagram. Le compte c'est La Relève RCP. Merci.